Vous êtes sur RTL. Pascal Praud sur RTL.
Mathéo est donc avec nous, il est étudiant. Mathéo qui voulait réagir sur les propos d'Éric Dupond-Moretti. Et vous voyez une différence entre ce qu'il disait lorsqu'il était avocat et ce qu'il a dit ce matin, précisément.
Éric Dupond-Moretti, il a pour malheur d'avoir été un grand bavard. C'est-à-dire qu'on l'a entendu absolument partout, à la radio, à la télé, dans des bouquins. Et il a eu le temps de s'étaler pour dire absolument tout ce qu'il voulait. C'est vrai que chaque Français peut devenir biographe d'Éric Dupond-Moretti parce qu'il a la langue bien pendue. Et il a notamment la langue bien pendue sur les assises. Et je crois que c'était On n'est pas couché, mais à charge de vérification. Mais il disait bien... les assises, c'est très simple. Les jurés, les jurés, quand ils sont avec les juges, ils y sont pendant quelques jours. Alors le premier jour, on fait connaissance. Le deuxième jour, on connaît le nom des enfants. Et puis le troisième jour, on demande comment va le mari. Donc au final, les jurés sont complètement aux mains du juge, qui sait très bien comment y faire. Lui est un professionnel du droit et a l'habitude de ça. Donc forcément que les jurés seront influencés par le juge et que la décision finale reviendra à la justice en soi. Et ça, j'ai l'impression qu'Éric Dupond-Moretti l'a complètement oublié ce matin en disant « Mais ces gens-là sont majeurs, ces gens-là sont vaccinés, c'est cette circonstance. » Et donc, le jugement est complètement motivé. Mais quelle arrogance, mais quelle audace il faut pour dire ça lorsque le jugement qui a été rendu est juste une insulte à la police. Et au-delà d'être une insulte à la police, c'est une insulte à la sécurité des Français.
Écoutez, ça a le mérite d'être un avis tranché, Mathéo. Ce qui est intéressant, c'est que tous les avocats que je connaisse disent, lorsqu'ils sont avocats, que c'est le président qui fait le jugement. Ils disent tous ça. Oui, mais c'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Les magistrats, par exemple, ne disent pas cela. C'est ce que disent les avocats.
Pascal, c'est normal, ils se défendent, les magistrats. Et aller dire, Pascal, oser dire que les magistrats n'ont pas une tendance peut-être politique assez marquée. Je crois me rappeler d'un mur qui était orné de cons à un endroit chez les magistrats. Je pense qu'il y a des syndiqués chez les magistrats et que ces syndicats-là sont plutôt de tendance gauchisante. Je pense que le laxisme est plutôt de mise. Donc, je pense qu'on peut le dire et croire les avocats qui ne sont pas réputés pour être de grandes personnes d'extrême droite non plus, vous comprenez ?
En tout cas, merci de votre témoignage. Vous êtes étudiant en droit ?
Oui, j'ai été étudiant en droit et maintenant en économie.
Donc vous êtes en quelle année ?
En deuxième année d'économie, du coup.
Et vous imaginez, vous dirigez vers quelle profession ?
Vers tout sauf du droit, Pascal.
On va écouter. Merci Mathéo, merci d'être intervenu en premier. Bonjour à Greca, à Denis.
Bonjour à tous.
Et une pause et nous revenons.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Monsieur Bourchouet, ici Buckingham, où nous célébrons les 95 ans de Sa Majesté Elisabeth II. 95 ans, ami. Alors c'est sans doute un anniversaire infiniment triste pour elle, parce que son époux est décédé il y a quelques jours.
Et vous réagissez depuis le début de l'émission, comme Mathéo, à l'interview du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, invité de RTL ce matin. Après le verdict dans le procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon, 5 condamnés, 8 acquittés, une question revient ces dernières heures. La justice est-elle trop laxiste ?
Il y a 6 semaines de procès, monsieur, à huis clos. La justice a été rendue par le peuple français, c'est-à-dire par les auditeurs qui nous écoutent, qui sont de nationalité française, qui ont plus de 23 ans, qui n'ont jamais été condamnés, c'est ça le jury populaire.
Pour Thierry, sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole, que tous les politiques restent à leur place et arrêtent de polémiquer sur tout. Ce procès de Viry-Châtillon me permet de faire ce constat, écrit Carole. Il y a un fossé qui ne cesse de grandir entre la police et les institutions judiciaires. Philomène était assez énervée ce matin à l'écoute du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, veut toujours avoir raison sur tout. Oui, quelle arrogance.
Bonjour Charles, vous êtes juriste.
Oui, bonjour Pascal.
Et vous habitez Lyon, votre sentiment sur la prise de parole d'Éric Dupond-Moretti et notamment sur le verdict peut-être de Viry-Châtillon ?
Bah écoutez, je suis d'accord avec le ministre de la Justice et pas d'accord avec l'avocat. Mais c'est évident, en fait, bien entendu, un arrêt de cour d'assises commence par « au nom du peuple français ». Donc il a raison, c'est le peuple français qui rend la justice et j'ai même envie de dire « ce sont des amateurs ». c'est-à-dire que les jurés populaires, ce sont des gens comme vous et moi qui sont tirés au sort, sur la base, je crois d'ailleurs, des listes électorales. Ce sont donc des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de la justice et qui se forgent une conviction, ou alors qui laissent le bénéfice au doute. Et puis voilà, on est dans un cas comme celui-là, puisque en fait, dans cette affaire, la difficulté, c'était que les témoins n'étaient pas sûrs, tout n'était pas cohérent, tout ne se rejoignait pas, et donc, bah, du coup, je pense que c'est le doute qui a bénéficié. Mais attendez, Pascal, il existe la procédure d'appel. Si les parties civiles...
Ah non, là, il n'y a plus d'appel, parce que c'était déjà l'appel.
Bon, bah alors, si c'était déjà l'appel,
c'est-à-dire
pardon.
Ce qui est étonnant dans ce verdict, c'est que en deuxième instance, les réquisitions du parquet ont été moins lourdes qu'en première instance. Or, le parquet avait fait appel. Donc ça, factuellement, ça a étonné les observateurs. Pourquoi les réquisitions du parquet sont-elles moins lourdes, moins sévères qu'en première instance sur un même dossier ? Alors que précisément, je le rappelle, le parquet avait fait appel.
Mais peut-être à cause de ce témoin qui avait été brûlé à 25% et qui s'est contredit dans ses
c'était à huis clos et c'est très difficile de savoir précisément ce qui s'est dit. C'est pour ça que c'est très ce procès, à mon avis, va rester dans l'histoire judiciaire, parce qu'il y a beaucoup de mystères, pour tout vous dire, dans ce procès, un procès à huis clos, et effectivement
mais Pascal,
les versions sont contradictoires.
Oui, mais il y avait des mineurs.
Oui,
il y
bien
avait
sûr,
des mineurs, donc il y a huis clos toujours, parce qu'il y a des mineurs.
Bien sûr, bah oui, mais les journalistes n'y ont pas accès, donc c'est très difficile. En fait, on sait de ce procès ce qu'on veut bien nous dire. Alors parfois, c'est des magistrats qui font filtrer, parfois c'est les avocats qui parlent, parfois c'est pourquoi pas des acquittés ou ceux qui ont été condamnés qui parleront ou prendront la parole d'une manière ou d'une autre. Donc voilà.
Moi, je comprends en tout cas d'Éric Dupond-Moretti qu'il ne puisse pas s'exprimer de la même manière que quand il était avocat.
Oui.
C'est évident.
Oui,
sinon, il démissionne. Voilà.
Bien sûr. Même s'il a une tentation, pour tout vous dire, à réagir vite et à partir au quart de tour, comme on dit.
Oui. Ben, je pense qu'il se maîtrise, oui.
Alors qu'on pourrait imaginer une parole un peu plus... comment dire, surveiller. Et je pense au mot rafle qu'il a utilisé, par exemple, en nommant ou en désignant Xavier Bertrand. Et sans doute, le mot rafle n'était pas judicieux.
Oui, c'est un petit peu emporté, mais ce sont des effets...
Ah, le mot rafle, il est très connoté. Dire que Xavier Bertrand veut remplacer les jurés ou la justice par une logique de rafle, comme il l'a dit... C'est vrai que ce mot est maladroit.
Xavier Bertrand a peut-être pas bien l'exercice de l'État. C'est peut-être pour ça.
C'est possible. Je rappelle que, alors c'est évidemment un sujet annexe, mais Éric Dupond-Moretti avait dit cela. Monsieur Bertrand propose donc une modification de la Constitution pour envoyer en prison automatiquement toute personne interpellée sans preuve ni procès. Aucun policier, aucun magistrat n'acceptera de substituer le principe de la justice à la logique de la rafle. Et ce matin, il était interrogé sur ce mot rafle par Benjamin Sportouche. Merci beaucoup, Charles, ce témoignage. Raphaël est là également. Il est prof de droit, Raphaël, donc ça va être intéressant.
Bonjour Pascal. Et puis constitutionnaliste. Voilà, donc pour dire tout de suite sur éliminer ce dont vous venez de parler, la phrase de Xavier Bertrand, la proposition de Xavier Bertrand, elle est inconstitutionnelle. On la met à la poubelle, on n'en parle plus, c'est terminé. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé deux fois, je crois, sur ce genre de choses, dans les années 90 et dans les années 2000. Pour revenir sur notre ministre de la Justice...
On rappelle peut-être ce qu'il proposait, Xavier Bertrand, parce que je ne suis pas sûr que...
Des peines automatiques.
Automatique minimum d'un an pour ceux qui agressent un policier, un gendarme, un pompier ou un maire. C'est la proposition avancée.
Totalement inconstitutionnel.
Inconstitutionnel. C'est-à-dire que c'est le minimum, j'ai envie de dire. Après, il pouvait y avoir une interprétation pour le juge, et sans doute y aurait-il eu une interprétation si l'action commise par celui qui était jugé était plus grave. Il y avait une hiérarchie.
En plus, l'arsenal pénal condamne déjà, c'est des délits spécifiques contre les forces de l'ordre et les pompiers. Ça existe déjà. Donc, je pense que ce n'est pas le débat.
Ça peut l'être, en tout cas, de vouloir protéger un policier, un gendarme, un pompier ou un maire. Comprenez que aujourd'hui, ces gens-là sont en première ligne.
Absolument.
Et sans doute faut-il les protéger. C'est ce qu'il veut dire, sans doute, Xavier Bertrand.
Oui, peut-être, ils le sont déjà dans l'arsenal pénal.
Ce n'est pas peut-être, si vous me permettez. Moi, je pense aux policiers, c'est important de protéger nos policiers.
S'ils ne sont pas protégés, c'est-à-dire si l'arsenal pénal n'est pas appliqué, vous savez à qui la faute, M. Pascal Praud ?
Non,
à qui ? C'est la justice qui ne prend pas les bonnes décisions. Parce que le problème dans notre pays, et je le dis en tant que prof de droit peut-être et citoyen, ce sont les décisions de justice. Mais la justice, elle subit des réformes tous les ans, quasiment depuis 20 ans. Alors, je voudrais revenir sur notre ami docteur Moretti et Mister Dupont. Le 14 avril, sur vos ondes, sur celle de France Info également, il a dit la chose suivante. Il voulait étendre les cours criminelles sans jury citoyen pour les crimes de 20 ans maximum. Donc, on évince, dans le projet qui est toujours en cours, on évince le jury populaire. On est bien d'accord, les cours criminels, d'accord ? Un an avant, jour pour jour, l'avocat Maître Dupond-Moretti nous dit « La justice de notre pays est rendue au nom du peuple français ». On est en train de l'exclure, ils veulent de l'entre-soi. En un an, ils changent complètement de position. Les cours criminels un peu spécifiques qu'on veut mettre en place évincent les jurys populaires. C'est marqué dans le projet de texte de loi, il n'y a qu'à regarder. Hein. Alors, si vous voulez mieux, moi je voudrais savoir quelle est sa position. Alors, ils nous disent
maintenant. Quelle est la vôtre surtout ? Parce que ça m'intéresse. Parce que je disais tout à l'heure.
Alors, moi, la mienne va vous surprendre. La mienne va vous surprendre. Je suis contre les jurys populaires.
Mais non, ça ne me surprend pas parce que...
À chacun son métier.
Ben voilà, ça ne me surprend pas du tout ce que vous dites. Tout à l'heure, je disais qu'on est dans un monde qui réclame de la compétence, de l'expertise, du professionnalisme. C'est généralement ce qu'on réclame dans toute chose.
Absolument.
Sauf, manifestement, dans une cour d'assises. Où le seul paramètre pour juger, c'est d'avoir au moins 23 ans et d'avoir un casier judiciaire vierge. Quoi, de ne pas être privé de ses droits civiques. Donc c'est un paradoxe.
C'était ça. Et alors, il faut savoir en plus, pour avoir un petit peu fréquenté les prétoires, que ces gens, étant des amateurs, sont manipulables et manipulés, je pèse mes mots, très souvent par le président de la cour d'assises.
C'est ce que disent les avocats.
Bien évidemment. Et le président Dupond-Moretti l'a dit aussi.
Mais tous les avocats
donc,
disent ça.
Et bien voilà, donc le jury populaire, il faut trouver une autre solution.
Ben vous avez entendu peut-être tout à l'heure dans le 12h30 de Christophe Decroix. De mémoire, il rapportait qu'aux Pays-Bas, par exemple, il n'y a que des professionnels dans certains pays. En Angleterre, il y a beaucoup de jurys populaires. Mais l'exception, en France, on est quand même une exception avec l'Angleterre, manifestement, à privilégier les jurés populaires. Et souvent, que ce soit en Italie, aux États-Unis, les exemples qu'il citait, il y a une place importante pour les magistrats professionnels. Et parti.
Un gros problème.
Eh oui, c'est un gros problème. Vous dites.
Allez, bonne journée.
Merci
au
beaucoup,
merci,
Raphaël. Merci.
Bravo pour vos émissions, toujours. Bravo.
Ben, vous êtes gentil. Merci. La pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Éric Dupond-Moretti ne laisse pas insensible. Certains l'aiment, certains le détestent, c'est un peu fort, mais en tout cas, l'aiment moins. Et en tout cas, il est clivant et il ne laisse pas de marbre. Nous sommes avec Hervé, bonjour, qui est artisan en Haute-Savoie. Bonjour Hervé.
Bonjour Pascal Pro.
Juré populaire ou juré professionnel, c'est un de nos thèmes aujourd'hui.
Juré populaire à une seule condition, c'est qu'il ne soit pas influençable.
Ah oui, mais ça c'est... Comment se préserver de cela? C'est impossible.
Eh ben, on laisse un jury populaire délibérer seul.
Oui, mais alors là, ça doit être compliqué, j'imagine, parce que là, vous avez affaire à des amateurs, au sens noble peut-être du terme, mais vous avez... Il y a un moment, il faut bien mettre en fiche la question judiciaire.
La question judiciaire, c'est une chose.
On n'est pas au bistrot, vous voyez ce que je veux dire.
On est
obligé de mettre en questionnement, en réponse pénale, en loi, en règlement, que sais-je, toutes les questions qui sont posées à une cour de justice.
Mais,
Et j'imagine que le président, il oriente les débats, effectivement, il cadre, il canalise, autrement c'est du n'importe quoi. Comment voulez-vous mettre 8 personnes ensemble qui ne connaissent pas les droits et ne savent même pas les questions auxquelles elles doivent répondre ?
Non, mais leur donner un minimum de peine et un maximum de peine. RTL est une grande radio. Faites un sondage pour voir ce que le peuple pense à l'heure actuelle de la justice. Vous allez voir un peu le sondage.
On est quand même mais ça, c'est facile comme question. Est-ce que vous trouvez que la justice est efficace ou pas ? Moi, je pose une question, c'est facile. Okay. Mais
on parle de Dupond-Moretti. Mmh. Dupond-Moretti, il avait un costume d'avocat. Quand il était un grand avocat qui plaidait, il demandait des sanctions exemplaires. Aujourd'hui, il a un costume de ministre. Je l'ai écouté ce matin à votre radio. Son discours est totalement différent. Donc déjà, on a deux personnages là en un.
Mais ça, c'est pas en soi, c'est pas gênant à la limite.
C'est quand même la vérité. C'est quand même la vérité. Je l'ai bien écouté ce matin sur votre radio. Voilà, les gens pensent que les sanctions sont pas assez sévères, mais faut pas voir ça comme ça et tout. On est dans une société qui est de plus en plus violente et les peines sont amusantes. Comment voulez-vous rétablir un peu d'ordre dans ce pays avec des peines qui n'ont plus rien à voir avec les faits, avec les gravités ? Quand on voit le dernier jugement sur les policiers qui se sont fait agresser, comment voulez-vous faire prendre conscience que si on déborde de trop, il y a une sanction qui est lourde ? S'il y avait eu un exemple avec des peines assez lourdes au départ, on n'en serait peut-être pas là. Maintenant, on excuse. Alors, on parle de peine planchée, de ceci, cela. C'est plus comme ça que la société fonctionne. Vous savez, moi, j'ai pas mal de copains qui sont gendarmes et puis policiers. Quand vous voyez qu'ils ont peur pour leur famille, qu'ils ont peur d'aller faire un contrôle au bord de la route pour pas se faire shooter, ça pose quand même un gros problème. On est dans une société à l'heure actuelle, si ça évolue pas, un jour on sera comme aux États-Unis, les gens vont s'armer. Et là, ce sera beaucoup plus grave.
Il faut pas souhaiter, évidemment, d'arriver à cette... extrémité.
Je ne le souhaite pas du tout. Mais les gens qui vivent dans des quartiers extrêmement difficiles, qui sont en permanence raquettés et emmerdés, un jour ou l'autre, ça ne pourra plus aller comme ça. Donc la justice ne fait pas son travail.
Ce qui est difficile dans ces conversations, Hervé, c'est qu'on a, et je le disais hier, on a très peu de statistiques au fond. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à savoir si la justice en France est laxiste ou non. Il y a parfois effectivement des affaires, je suis comme vous, je me dis tiens là les peines ne me paraissent pas très sévères, mais je n'ai pas de statistiques. Et ce que je ne sais pas non plus, c'est si nos lois sont assez contraignantes, assez sévères en un mot, ou si elles sont plus douces que dans d'autres pays. Ce que je devine, c'est que si vous touchez un policier en France et si vous touchez un policier aux États-Unis, manifestement la peine n'est pas la même. Manifestement, aux États-Unis, on ne permet pas, dans la législation américaine, qu'un policier puisse être malmené comme il peut l'être parfois en France. Ça, c'est incontestable.
Il y a un juste milieu à avoir, si vous voulez, entre aux États-Unis où on va tirer pour la police va tirer très facilement, et puis nous, en France, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Mais je pense honnêtement que ce juste milieu, il est urgent de le trouver. On va dans une société qui va droit dans le mur. Vous savez, en plus d'être artisan en Haute-Saône, pas en Haute-Savoie, je m'occupe pas mal de jeunes, je suis éducateur sportif. Je vois l'évolution de la jeunesse depuis 25 ans. C'est un problème d'éducation, c'est tout un problème. Et ils se rendent plus compte de rien. Donc si on n'est pas capable de leur donner des bases...
Mais ça se traduit comment ça ? Parce que moi,
ça se traduit tout simplement...
J'aime bien les exemples, par exemple.
Tout simplement, à dire, quand on vient à l'entraînement de foot, faut dire bonjour, faut dire au revoir, faut dire merci, et puis saluer l'adversaire, et puis ne pas insulter l'arbitre, ou s'insulter entre eux, parce que des langages très vulgaires sont monnaie courante maintenant. Donc tout ça...
Et ça, vous avez trouvé un changement en 25 ans ?
Ah, c'est énorme, c'est énorme, énorme, énorme.
Que ça crains que vous n'ayez raison.
Que ça soit fille et garçon.
Oui, les filles, vous avez... Je crains que vous n'ayez raison.
Ah non, mais c'est catastrophique, moi je peux vous le dire. En tant qu'éducateur, la première chose qu'on fait maintenant, c'est leur apprendre à dire bonjour, merci et au revoir.
Bon, merci beaucoup Hervé de ce témoignage. Artisan Haute-Saône, nous allons marquer une nouvelle pause. Qui et comment tire-t-on au sort ? Ça, c'est une question qui est souvent posée également. Comment devient-on... injuré Eh bien, c'est une question à laquelle on va pouvoir répondre dans quelques minutes.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
L'épidémie recule deux fois moins rapidement qu'elle ne reculait en novembre. Ce sont les mots de Gabriel Attal qui est en train de parler en ce moment et qui est en train d'annoncer les étapes pour le déconfinement. Il a également dit l'Inde est à ajouter aux listes des pays avec restrictions. Le trafic aérien vers la France est de 10 à 15% par rapport au trafic habituel. Ce sont les informations de Gabriel Attal. Et un majeur sur quatre est vacciné avec au moins une dose. Laurent Tessier.
Nous vous attendons au standard sur cette question. La chasse aux automobilistes est-elle ouverte ?
Après. Ça, je pense que vous allez faire plaisir à nos auditeurs, amis. Je pense.
Après de premiers tests menés
vous
depuis.
Vous pouvez le remettre, le petit truc là.
Après de premiers tests menés depuis 2018, les radars embarqués dans des voitures privées vont se déployer progressivement en France. Un arsenal capable de relever les excès de vitesse sans que nous puissions nous en rendre compte. Plus de 200 véhicules banalisés seront sur les routes d'ici à la fin de l'année dans quelques régions. Pierre Chasseret, le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, ne cache pas sa colère.
Ils vont tout simplement rouler et cacher insidieusement, perfidement dans la plaque d'immatriculation. Vous avez des radars qui viennent par système d'infrarouge prendre la plaque d'immatriculation, vous prendre en photo, mais attention, ça ne flash pas. Vous ne savez même pas que vous avez été flashé. Alors, où est la prévention là-dedans? Je me demande, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ces voitures, elles roulent sur la route, on va vous prendre en excès de vitesse, et puis vous recevrez dans 3 semaines, dans votre boîte aux lettres, un courrier qui vous dira que vous avez de l'argent.
Quel scandale s'énerve Gabriel sur nos réseaux sociaux. Et la pédagogie là-dedans, la prévention, nous ne sommes que des vaches à lait, la culture du chiffre, dans toute sa splendeur, critiquée. Et après, bah, ne vous énervez pas, répond Janine, si vous respectez la limitation de vitesse, il n'y a pas de raison de polémiquer. Vous
mais exact, moi c'est ça qui me fascine. Et on peut là, il était quand, monsieur Chasseret, à
l'antenne ? À 12h50, l'invité de Christophe Paco dans RTL Midi.
On peut le revoir si on veut, il est excellent, monsieur Chasseret, mais je ne comprends pas, il n'y a pas de pédagogie. La pédagogie, c'est simplement la peur du gendarme. C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a une voiture qui peut te prendre en flagrant délit, peut-être vas-tu rouler moins vite. C'est la seule chose. Avec l'automobiliste, il n'y a pas d'autre solution. La pédagogie, vous savez bien que ça n'existe pas.
C'est dommage.
Ne soyons pas...
Dans le monde des bisounours.
Ne soyons pas dans le monde des bisounours. Mais il y a un avantage avec cette voiture qui vous... j'allais dire qui vous flique. C'est que si vous respectez les limitations de vitesse, il ne vous arrivera pas grand-chose. Vous comprenez ?
Même rien du tout, si vous respectez la limitation.
Alors, on peut tous se faire prendre, ça nous arrive tous, se faire prendre à 5 ou 10 en plus, parce qu'on n'a pas vu sur la route qu'on passe de 90 à 70. Là-dessus, il n'y a pas de souci, hélas d'ailleurs. Mais vous n'allez pas perdre votre permis à cause de ça. C'est les grands excès. Et les grands excès, je suis désolé, vous savez que vous les faites. Des gens qui sont à 170 quand on est à 130, c'est pas convenable.
On va rappeler Pierre Chasseret. Le sujet vous passionne.
Ouais, mais non, mais parce que ça me fatigue, moi, les automobilistes qui roulent vite. Je trouve que c'est fatigant. Mais bon. Je suis monsieur la morale, peut-être. Mais ça me fatigue. Voilà. Tu roules à 130 et puis voilà sur l'autoroute. Et puis basta. Tu vas gagner 10 minutes, la belle affaire. Bon. Est-ce que nous avons... je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous dire le juré. Un juré est un citoyen tiré au sort sur les listes électorales pour siéger à la cour d'assises. Il participe aux côtés des magistrats professionnels au procès des personnes accusées de crimes. Le juré exerce pleinement la fonction de juge. Et si vous êtes retenu pour siéger lors d'une session d'assises, vous êtes obligé de le faire. Sauf s'il y a un motif grave qui vous en empêche, vous devez respecter certaines obligations. Vous avez le droit à des indemnités. C'est clair. Patrick, bonjour. Patrick est routier, justement. Est-ce que vous avez tous vos points, Patrick ?
Oui, Patrick. Je suis à 9. Une erreur de petite excès de vitesse, comme vous disiez, une fois le téléphone.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes routier, vous êtes sur la route tout le temps, et j'entends dire, quand on est routier, on ne peut pas garder tous ses points. La preuve que non.
Je suis à 9 points, et je fais entre 2500 et 3000 km semaine.
Ça, c'est ce que vous dites est vraiment formidable. Vous voyez, donc arrêtons de dire n'importe quoi. Donc j'entends certains dire.
Je me fais souvent pousser.
C'est-à-dire.
je suis le camion chiant à 80.
Mais oui, non, mais vous respectez. Enfin,
voilà, c'est des discussions, permis, c'est ça. Moi, c'est mon permis, c'est mon gagne-pain. Donc, et comme vous le disiez tout à l'heure, sur une tranche de 4h30 qui est le maximum autorisé pour nous, on arrive à se faire doubler 3-4 fois par des voitures. La même voiture, parce qu'elle roule très vite, mais par contre, elle est tout le temps arrêtée.
Bon, Patrick, vous vouliez parler des jurés, parce que vous nous avez appelé pour ça.
J'étais un peu étonné, parce que j'étais 2 semaines de suite pour 2 affaires totalement différentes, donc comme juré. Donc, comme vous venez de l'expliquer, j'ai suite aux listes électorales, donc j'ai été retenu sur ma commune. Après, donc, ça passe une première fois où on reçoit un avis par lequel, là, on est attitré à tel procès, à telle date. Et on peut encore être révoqué au sein du jugement, le jour même, par la partie civile, par l'avocat général, au moment où on est appelé, où on descend pour prendre notre place à côté des assesseurs. On peut être révoqué encore à ce moment-là. Donc, on en a en fait 3 fois où on est retenu, ou pas. Voilà. Mmh. Après, moi, particulièrement, ce qui m'a fait vous appeler, c'est en disant qu'on était complètement sous la coupelle d'un juge. Déjà, bon, c'est vrai que ça nous permet de voir la justice différemment, parce que moi, je ne la connaissais que par la télé, donc bien sûr, par des feuilletons à grande tendance américaine, généralement. Ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, moi, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. Déjà, on n'est pas dans un box vitré à côté ou en face de l'accusé. On est de chaque côté des assesseurs. Donc, vous avez monsieur le juge, les 2 assesseurs et de chaque côté les jurés. Et pour une affaire, ça a été assez vite puisqu'on a délibéré en 3h30, à peine 4h. Ouais. Par contre, la deuxième affaire, la deuxième semaine, on a été 7h et j'ai vraiment pas eu l'impression sur une affaire comme sur une autre que j'étais sous la pression de monsieur le juge. Non, j'ai pas.
Ah ben ça, c'est vraiment important de le dire. Vous avez été donc juré 2 fois parce que vous étiez en fait sur une session sans doute.
On avait été pris pour une session de 15 jours, donc on était retenu ou pas retenu. Le lundi matin, on peut très bien se présenter à la date, et en fait, on nous renvoie chez nous.
L'indemnité de combien ?
Elle est assez intéressante. Je vous dirai plus le chiffre exact, puisque je suis dans mon véhicule, donc je ne pourrais pas ressortir de fiche. Mais pour vous donner une idée, j'ai gagné plus que quand je travaillais.
Ah oui, c'est intéressant. Et c'était quand, ça ?
Oh, ça fait un an et demi, 2 ans à peu près, quoi, je pense. Ouais, à peu près, ouais. Donc, en fait, on a nos indemnités, déjà toutes nos indemnités kilométriques, en fonction de la puissance de notre véhicule, comme pour la déclaration d'impôt, on va dire, voilà. Nos repas offerts. Et le manque à... Alors, on est rémunéré déjà par la Cour, enfin par l'État, et on a une compensation de manque à gagner sur notre entreprise. Notre entreprise nous remet un manque à gagner sur cette semaine-là, qu'on n'a pas eu. Et moi, je vous avoue franchement, j'ai gagné sur une semaine autant que quand je travaillais, sur l'autre un peu plus.
Vous avez apprécié cette expérience ?
Oui. Si elle était à refaire, je la referais. Parce qu'en fait, comme je vous disais, ça nous permet de voir la justice d'un autre œil.
Et vous êtes senti vraiment concerné à chaque fois par ces affaires ?
Oui, concerné dans le sens où le lundi matin, par exemple, où on est retenu ou pas, pour ceux qui le souhaitent, parce que la session commence que le mardi, le lundi après-midi, on nous fait visiter la prison, pour ceux qui le veulent, la prison d'Angers. Donc là, puisque moi j'étais à la cour à Angers. Et ce qui permet de se rendre compte avant où on envoie les gens, dans les conditions où ils sont détenus, et de se rendre compte vraiment.
Et la prison d'Angers, elle est dans un bel état ?
Non, c'est une des plus vieilles, justement. Là, elle vient d'être annoncée qu'ils allaient construire une neuve sur Trélazé. C'est une des plus vieilles prisons qui existent.
Non, mais il est intéressant ce témoignage. Et je retiens évidemment qu'on accuse parfois les présidents de faire ce qu'ils veulent. Et vous dites non.
Moi, j'ai pas eu l'impression.
Ouais.
C'était cordial. Il n'y avait pas une autorité non plus. Bah, attention, hein, sauf dans la cour. Mais c'est vrai qu'on était en salle de délibération. Il était comme un juré en plus, comme il disait. Il avait ça, voilà. Mais j'ai pas ressenti une impression d'autorité.
Et le vote, là, vous votez la sanction et vous votez non pas à main levée, mais le vote est secret.
Le vote est secret, c'est sur des papiers pliés, hein, comme dans tout vote, quoi, avec une urne, hein, et donc sans nom, sans rien, juste. Alors c'est jusqu'à temps que tout on arrive à se mettre d'accord à la majorité, Donc là, on revote jusqu'à temps qu'on arrive à se mettre d'accord sur une peine, quoi.
C'est passionnant. C'est vrai que c'est intéressant. Je vous envie un peu pour tout vous dire, Patrick, parce que quand on est journaliste, on a cette curiosité-là, forcément. Mm-hmm. Et c'est une expérience qu'on aimerait sans doute tous vivre, parce que c'est intéressant de se confronter, comme vous l'avez dit, à cet univers-là d'abord, et puis avoir la justice peut-être d'une manière différente. Donc c'est une expérience que je trouve assez intéressante. Merci beaucoup de votre témoignage.
Je regrette pas. Ok, Pascal, merci, puis continuez vos émissions.
C'est gentil, on va parler, alors on va peut-être parler encore de Éric Dupond-Moretti, mais on parlera peut-être des radars également. Je ne sais pas si M. Chasseret est là. À chaque fois que je l'ai, on s'engueule, pardonnez-moi ce mot un peu trivial. Mais
je vous écharpez.
Mais non, mais je comprends, il est dans son rôle, effectivement. Mais c'est quand même simple de respecter les limitations de vitesse. Bon sang de bois. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, cette affaire de radar embarqué pour piéger les automobilistes, la chasse aux automobilistes est ouverte. Pierre Chasseret est là, paraît-il. Mais alors, on va d'abord entendre Charles, peut-être. Bonjour, Charles. Les radars embarqués dans des voitures privées vont se déployer un peu partout en France. Un arsenal redoutable, capable de relever les excès de vitesse sans que nous puissions nous en rendre compte. Bah oui, c'est le but, évidemment. Le but, c'est d'être dissuasif, forcément. Ça vous choque, Charles ?
Oui, ça me choque. Bonjour Pascal, un honneur de discuter avec vous aujourd'hui. Alors moi, ça me choque parce que en fait, j'ai l'impression que tant qu'on mélangera sécurité et argent, on n'y arrivera pas. Moi, je suis choqué parce que en fait, la privatisation de ces contrats va amener à faire du chiffre, à avoir une politique du chiffre. Et moi, ça m'inquiète parce que finalement, on va se retrouver dans des situations qui me semblent dramatiques. Pas plus tard que ce matin, ma compagne est sur une autoroute 90 km/h, elle prend la sortie d'autoroute qui descend 70-50. Et honnêtement, dans ce type de virage, vous ne pouvez pas être à 50, et ça a été son cas. Un poids lourd qui arrive derrière elle, lancé à vitesse rapide, qui respecte pas la vitesse, elle doit choisir entre augmenter un peu sa vitesse pour pas se faire rentrer dedans, ou justement se faire rentrer dedans. Donc c'est extrêmement inquiétant. Et moi, je me dis que notamment dans ces cas de figure-là, on n'est pas à l'abri que des voitures banalisées qu'on ne pourra pas reconnaître viendront provoquer un petit peu pour qu'on dépasse un tout petit peu la vitesse. Alors je ne dis pas qu'il faut dépasser la vitesse, et là je pense, Pascal, qu'on va pouvoir débattre, mais en l'occurrence de se positionner par exemple sur une voie à 80 ou 90, parce que aussi ça dépend des départements, c'est pas nationalisé, c'est pas partout pareil. Si une voiture banalisée veut faire un peu de chiffre, parce que c'est une société, elle va se positionner à 72, certains vont trouver ça trop lent, vont dépasser de 5-10 km/h et vont se faire avoir, alors que il y a encore cette petite attitude aujourd'hui qui existe. On parle pas de grands excès de vitesse, mais voilà.
Non, mais déjà il y a une tolérance, hein. Quand vous êtes sanctionné pour être à 72 km/h au lieu de 70, ça veut dire que déjà vous étiez sans doute à 78 ou 79.
Tout à fait.
Donc déjà il y a une tolérance. Mais je vous dis, on peut tous se faire avoir, évidemment, sur ce genre de choses. Vous dites un cas particulier, tu sors d'une autoroute, le cas que vous avez cité, etc. Mais je n'imagine pas une seconde que précisément les gens iront dans cette courbe-là pour chasser l'automobiliste. C'est pas ça. La vérité, c'est qu'il y a des gens qui roulent très vite, et notamment sur les autoroutes, et que à ce moment-là, ces radars peuvent être efficaces. Point.
Dans un premier temps, je suis d'accord avec vous que ça pourrait se limiter à ça, mais quand l'État verra que ça fonctionne et qu'on peut faire de la politique...
J'en suis pas sûr, Charles. Moi, je fais pas de procès de mauvaise intention. Je sais que je suis sur l'autoroute comme vous depuis des années. Je trouve qu'elles sont plus agréables à conduire aujourd'hui, quoi. Il est plus agréable de conduire qu'il y a 20 ou 30 ans parce que les gens roulent moins vite. Voilà. C'est plus sécurisant, c'est moins stressant et c'est plus agréable. Je peux pas vous dire autre chose parce que vraiment, je le vis et je le pense.
Alors, je peux pas témoigner de si c'est plus agréable de conduire qu'il y a 20 ans, parce que j'en ai que 27, mais en l'occurrence, oui, c'est vrai que c'est agréable de conduire sur les autoroutes françaises. On se sent quand même globalement en sécurité, mais j'ai peur qu'il y ait cette politique du chiffre qui amène les sociétés à les taper un peu dans les coins.
J'ai bien compris. Je ne peux pas vous répondre à ça. Je l'imagine pas forcément, mais c'est un argument qui peut s'entendre. Il est 13h46. Monsieur Chasseret est là, monsieur Chasseret ?
Eh ben, il est là. Bonjour Pascal, bonjour à
tous. Oh là là, monsieur Chasseret, à chaque fois qu'on dialogue ensemble, on n'est pas d'accord.
Ah ben, ça va recommencer, parce que là, vous venez encore de dire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, parce que ces radars banalisés...
Eh ben, vous allez le dire après la pause.
Ils vont rouler sur le réseau secondaire.
Ah bah écoutez, ils iront sur le réseau secondaire, pourquoi pas, mais ça n'empêche pas que le raisonnement reste valable. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Tout doucement, envie de changer l'atmosphère.
Monsieur Chasseret, tout doucement. Au fond, ce que vous aimez, vous, c'est rouler vite. Voilà, c'est ça la vérité.
Ça recommence.
Mais ça recommence. Pourquoi ? C'est ça que vous aimez, mais pourquoi pas d'ailleurs ? Et puis ça vous ennuie d'être...
C'est pas ça le problème.
Ah, expliquez-moi le problème alors.
La difficulté de ces radars privés, ces radars cachés dans les plaques d'immatriculation qui prennent des photos mais qui ne flashent pas. Donc, quand vous êtes pris en excès de vitesse, vous ne le savez même pas. Il n'y a même pas de vertu pédagogique.
Et alors ? Mais la vertu pédagogique, arrêtez avec ça.
Bien,
vertu pédagogique de quelqu'un qui roule à 180 à l'heure, vous pensez qu'il y aura une vertu pédagogique ? La seule vertu pédagogique, c'est de lui enlever son permis pendant 3 ans. Voilà.
Eh bien justement, double erreur, Pascal, mais c'est pas grave. Tant mieux, c'est ça que j'aime bien avec vous. C'est quand vous parlez, ça me laisse l'opportunité de tout corriger. Alors Pascal, déjà dans un premier temps, celui qui roule à 180 km/h, vous savez quoi, les radars privés ? Ils vont le prendre en photo, mais ils pourront pas l'arrêter. Parce que justement, ce ne sont pas les forces de l'ordre et qu'ils n'ont pas la capacité à arrêter quelqu'un. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui est vraiment dangereux sur la route, eh bien ces radars privatisés ne sont d'aucune utilité.
Bah, sinon qu'il ne pourra plus utiliser sa voiture peut-être 8 jours après ou 15 jours après.
Allez. Eh ben ça, c'est la deuxième contre-vérité, parce que vous saurez, mon cher Pascal, qu'en France, le problème, c'est quand vous perdez votre permis de conduire. Vous avez aujourd'hui 1 million de personnes qui roulent sans permis. Le problème de celui qui a décidé
Donc faut mieux rouler à 180, c'est ce que vous me dites finalement.
Non,
parce qu'ils continueront de rouler, mais ils n'auront plus de permis, c'est ça.
Ce qu'il faut, c'est une police de la route. C'est-à-dire mettre en place aujourd'hui des forces de l'ordre qui sont vraiment sur la route. Faire en sorte que l'État cesse de se désengager de la sécurité routière en donnant l'impression qu'il en fait et en posant quelques radars par-ci, par-là. Ça, ce n'est pas de la sécurité routière. Parce que pendant ce temps-là, quand vous avez quelqu'un qui titube sur la route tellement il a picolé, eh bien, vos radars privatisés que vous chérissez tant, mon cher Pascal, eh bien, ils ne sont d'aucune utilité. Parce qu'une nouvelle fois, eh bien, celui qui travaille dans ces voitures privatisées, il n'a même pas la compétence de les arrêter. Il ne fait rien. En fait, il ne sert à rien.
Moi, je suis pas très convaincu, mais enfin,
plus de son but d'image.
Mais non, je suis pas convaincu. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis convaincu que d'une chose, pour les automobilistes, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est le bâton.
Bah, vous vous trompez. Il faut bien sûr une sanction.
La peur du gendarme. Peur du gendarme.
Mais il n'y a plus de gendarme. Il y a plus de gendarmes.
Enfin, il y a des radars, quand même sur les autoroutes qu'il n'y avait pas il y a 40 ans, il y a 30 ans, et les gens sont un peu sensibilisés.
Il n'y a pas d'accident dû à la vitesse sur autoroute. La première cause d'accident sur l'autoroute, c'est la somnolence au volant. Donc,
c'est toujours les mêmes discussions.
Je suis pour rien. Si vous vous trompez, c'est pas grave.
Mais il n'y a pas d'accident précisément parce qu'on est à 130. Si on était à 180, il y aurait plus d'accidents.
Mais mon cher Pascal, vous savez très bien que les radars sur autoroute, ils ne sont pas positionnés dans les zones à 130. Ils sont positionnés dans les zones d'abaissement de limitation de vitesse.
C'est pas vrai.
Ils sont posés la plupart du temps dans des lieux.
Ça, ce que vous dites, c'est pas vrai. Je suis désolé. C'est pas vrai, je suis souvent sur les autoroutes. Je peux vous parler de la 11 qui va dans l'ouest. Évidemment qu'il y a des radars à 130, ne dites pas ça.
Eh ben écoutez, parlons de cet A10 à 11 et puis de cet axe que beaucoup de Français connaissent avec l'un des radars au niveau de Brice-Souforges qui a été pendant longtemps l'un des radars qui flash le plus en France parce que justement la vitesse est encore à 110 alors que 200 mètres plus loin elle passe à 130.
Bon.
Voilà, ça c'est la France.
Christophe, restez avec nous. Christophe est là, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes chef d'entreprise dans la Marne. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à notre petit dialogue ?
Écoutez, par rapport à ce que vous disait votre collègue, Pierre, je me range à son avis totalement. Moi, je trouve que c'est une c'est encore une faiblesse étatique. C'est une désorganisation d'État, ça montre bien son irresponsabilité. Aujourd'hui, nous, on est Français, on paye des impôts. Et je crois que Macron a annoncé qu'il avait recruté 20 000 policiers. Je pense que les forces de l'ordre doivent sécuriser et faire de la prévention sur les routes. C'est en aucun cas des sociétés privées qui doivent être missionnées pour effectuer ce que l'État n'est pas capable de faire.
On va sécuriser la ligne parce qu'elle n'est pas extraordinaire pour tout vous dire, Christophe. On a compris ce que vous disiez, mais je pense qu'on peut vous entendre avec plus de clarté encore. Jean-Pierre est là. Jean-Pierre, oui. Habite la Seine-et-Marne. Que pensez-vous de notre dialogue avec M. Chasseret ?
Eh bien, écoutez, je vais être avec vous, comme ça fera deux personnes contre deux.
Mais encore, allez-y.
Mais oui, mais parce que, écoutez, moi, je vous dis, bon, j'ai deux, une petite voiture et une autre qui est puissante et qui permet d'aller très, très vite sur autoroute. Mais je vais pas, sur autoroute, je mets mon speed control, je roule à 135 et je me fais doubler constamment par des voitures de toutes les puissances, toutes les cylindrées et je pense qu'elles vont très, très vite. Bon, ça après, mais pourquoi? Je suppose qu'elles ont un appareil qui est vendu dans le commerce et qui est autorisé, qui permet de localiser les radars et ainsi de suite. Ça, je trouve que c'est inadmissible. J'ai pas peur des radars. Je me suis fait avoir à 52 ou à 53 parce que je roulais dans la vitesse limite, mais j'ai récupéré mes points il y a 2 mois. J'avais 2 points de moins, mais je les ai tous récupérés. Et vous savez, quand vous faites avoir avec une amende, ben vous faites attention après. Donc, les voitures les plus modernes, les derniers modèles, enfin pratiquement toutes, sont équipées d'un speed control, d'un limiteur de vitesse. Il suffit de le mettre. Je roule sur des petites routes départementales. Ben, si je roule à 80, des fois j'embête quelqu'un parce que derrière moi, il piétine. Ben, il double s'il veut. Moi, je suis à 80, point, terminé.
Et vous mettez, est-ce que le régulateur de vitesse ?
Exactement.
Le split control, c'est ce qu'on appelle le régulateur de vitesse.
Exactement.
Alors, je ne sais pas la proportion de voitures qui sont équipées aujourd'hui d'un régulateur de vitesse. Vous la connaissez, cette proportion
Mais je pense qu'il y a beaucoup de modèles. Vous savez, j'ai une petite voiture française. Bon, bientôt, ce sont des options quelquefois, mais la plupart sont équipées de ce système.
Monsieur Chasseret, vous connaissez la proportion? Il y a plus d'une voiture sur deux ou moins d'une voiture sur deux?
C'est beaucoup plus que ça. On peut estimer que maintenant, l'intégralité du parc neuf aujourd'hui et des véhicules récents sont équipés de ce limiteur de vitesse.
Ben alors, vous mettez le petit régulateur, vous êtes tranquille sur la route.
Eh bien non, je vous écoute.
Pourquoi?
Les deux, mais je suis désolé. Alors, bravo, si vous respectez les limitations de vitesse, moi je vais vous dire, vous êtes un automobiliste parfait. Par contre, j'ai entendu quelque chose dans votre propos, monsieur. J'ai entendu que vous disiez que sur autoroute, vous le mettiez à 135. Alors déjà, je vais vous dire de faire attention, déjà dans un premier temps. Parce que, écoutez-moi, des automobilistes comme vous, qui mettent 5 km/h au-dessus parce qu'ils pensent à une marge de tolérance de la part des radars, il faut savoir qu'il n'y a pas de tolérance sur les radars, mais uniquement une marge technique imposée par les fabricants du matériel et qu'il arrive souvent que cette marge technique, eh bien, elle serve à ça. Si vous vous faites flasher, eh bien, malheureusement, vous devrez payer. Deuxième point,
vous ferez pas flasher à 135.
Le problème de ce limiteur, si, bien sûr que si,
mais
ça
non,
arrive.
Mais
c'est
pas
mon 130, métier, Pascal.
Mais pas 135, c'est déjà.
Pascal, c'est mon métier.
Mais 135. Comment dire,
vous faites de la radio et moi je défends les automobilistes. Mais je peux vous dire que quand le radar est légèrement décalé sur la prise de mesure, ce sont des choses qui arrivent et vous pouvez être flashé véritablement pour 1 km/h de trop. Donc déjà, je lance ce message, faites attention. Deuxième message, monsieur, faites très attention parce que vous pensez que parce que vous mettez votre limiteur de vitesse, c'est bon, vous allez passer à travers tous les flashs. Ben la preuve en est que vous avez déjà été flashé. Pourquoi? Parce que la plupart.
Attendez, j'ai été flashé à 51 au lieu de 56, pas sur autoroute.
Oui, mais bien sûr, mais écoutez-moi, ça pourra vous arriver aussi. Pour quelle raison? Parce que malheureusement, les radars sont souvent placés, comme je vous le disais, dans des zones où la vitesse est ponctuellement abaissée. Imaginons, vous loupez le panneau, ça peut arriver de louper un panneau, parce que, je sais pas, moi, vous avez les yeux ailleurs, ça peut arriver. Qui peut aujourd'hui prétendre être toujours
mais vous n'allez pas perdre votre permis à cause de ça. C'est ça que je vais vous dire. Évidemment, c'est très rare les gens qui ont 12 points. Quoique, je crois qu'il y a 90% des gens qui ont 12 points. Donc, ça m'amuse beaucoup cette discussion. Il y a 90% des gens qui ont 12 points. Et quand vous allez, parce qu'on est tous allés pour récupérer des points, comme par hasard avec des hommes.
Non, mais c'est pas du tout ça. Alors.
Il y a 90% des hommes. C'est un truc qui ne concerne que les hommes. Les hommes et leur voiture, c'est un truc de fou.
Voilà. Pascal. Pascal, on revient sur ce chiffre des 90% des gens qui ont 12 points, c'est vrai. J'ai aussi 12 points. Ça ne veut pas dire que j'en ai jamais perdu. Donc, ce que je voudrais, moi, connaître, et ce chiffre, bizarrement, on ne l'a pas, c'est la proportion des Français qui n'ont jamais perdu de points. Et j'aimerais connaître leur nombre de kilomètres.
Mais on ne peut pas, ça, c'est impossible. Tu perds toujours un point ou deux points pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure.
Et oui, mais on perd de l'argent. Et si cette perte de points, et si ce petit excès de vitesse est dû à un excès involontaire, puisque la France est le seul pays en Europe à retirer des points et à faire payer pour un petit excès de vitesse entre 1 et 10 au-dessus. On est les seuls, il n'y en a pas d'autres, c'est nous les champions, on est comme d'habitude les meilleurs.
Je suis désolé, on est passé de 18 000, je crois, morts en 75 à 3 000 aujourd'hui.
Et sauf qu'on est, je suis désolé Pascal, ça ne marche pas encore,
c'est
la propagande gouvernementale. On est le 15e pays européen de la sécurité routière, ça ce sont des chiffres.
Vous voulez que je dise quelque chose, Monsieur Chasseret, vous êtes excellent. Voilà, je baisse les armes, vous êtes excellent et vous êtes un excellent débatteur. Donc on va marquer une pause, on va écouter Jean-Yann, vous allez rester avec nous. Pourquoi Jean-Yann ? Regardez, écoutez.
À présent, vous êtes sur une route départementale.
Ça m'étonnerait alors.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je dis ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. J'y vais jamais sur les routes départementales. C'est plein de boue et ça sent mauvais.
Mais non, j'entends bien monsieur, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale ?
Non, je suis pas sur une route départementale. Je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. Je hais les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tous qui remuent.
Mais en admettant...
Oh
Passez ma route. Il reste avec nous, Monsieur Chasseret. Il est excellent. Excellent débatteur. Bon, il n'a pas toujours raison, mais c'est pas grave. la pause, le flash, à tout de suite.
Passer entre les gouttes et va des belles.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h. Discussion animée, évidemment, avec les radars. Mais pour le moment, Sébastien Rouxel, le flash.
Les premiers effets des restrictions se font sentir, mais la pression hospitalière reste extrêmement forte. Les mots de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil de défense sanitaire. Le calendrier, néanmoins, reste le même pour le moment. Levée des restrictions de déplacement le 3 mai, puis une rouverture partielle des terrasses et de certains lieux de culture à partir de la mi-mai. Des sources proches de l'exécutif évoquent également un allègement du couvre-feu. La NASA vient de l'annoncer, le lancement de la capsule SpaceX qui doit conduire Thomas Pesquet à l'ISS, la Station Spatiale Internationale, n'aura pas lieu demain comme prévu. Le vol est reporté à vendredi en raison des conditions météo. Emmanuel Macron se rendra aux obsèques du président tchadien Idriss Déby. Elles auront lieu après-demain. Le chef d'État au pouvoir depuis plus de 30 ans est mort sur le front. C'est son fils qui lui succède pour une période de transition supposée durer 18 mois. Elisabeth II, profondément touchée par les messages reçus après la mort du prince Philippe, la reine d'Angleterre fête aujourd'hui ses 95 ans. Pas de grande célébration en raison du contexte sanitaire, même si quelques fidèles se sont rassemblés ce matin devant le château de Windsor. La Super League, c'est déjà fini, c'est en tout cas ce que pense le président de la Juventus de Turin, l'un des promoteurs de cette nouvelle compétition européenne. Les clubs frondeurs se retirent du projet les uns après les autres. Dernier désistement en date, justement celui de la Juventus de Turin à l'instant. Et puis en Coupe de France, suite et fin des quarts de finale ce soir, le PSG reçoit Angers à 18h45. Ce sera juste avant le choc entre Lyon et Monaco à 21h10. La météo demain, journée calme et ensoleillée sur une grande partie du pays. On aura un ciel plus nuageux au-dessus des Pyrénées, du Roussillon, des Alpes et de la Corse. On attend même quelques averses. Côté température, c'est assez doux, 17 à 23 degrés en général. Les résultats du quintet, la course vient de se terminer à Pontchâteau. Je vous donne l'arrivée provisoire, le 3, le 5, l'As, le 15 et le 7.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Il va pouvoir échanger, Monsieur Chasseret, avec les auditeurs. On rappelle que vous avez un rôle particulier, Monsieur Chasseret, dans cette croisade.
Oh ben un rôle, j'essaie de défendre l'intérêt général des automobilistes raisonnables, responsables. Il est en aucun cas dans mon intention de défendre celui qui a décidé de pourfendre la règle, mais j'essaie juste de relativiser, de comprendre pourquoi tous ces radars sont tant décriés par les Français, et notamment ces nouveaux radars dont on parle aujourd'hui, ces radars qui sont cachés.
J'entends bien, mais c'était le rôle qui m'intéressait. Est-ce que vous savez sur les accidents la part de l'alcool et de la drogue, par exemple, sur...
Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors attention, il ne faut pas additionner les deux pourcentages, parce que la plupart du temps, on peut trouver deux, à la fois de l'alcool et des stupéfiants. Mais en gros, on sait que dans un cas d'accident mortel sur trois, l'alcool est présent, et dans un cas d'accident mortel sur quatre, les stupéfiants sont présents.
Et la vitesse?
Et la vitesse, on est... Alors la vitesse, c'est plus complexe, parce que la vitesse, faut la diviser en deux. Vous avez grosso modo 30% des cas d'accident qui sont liés à la vitesse, mais attention, il y a la vitesse excessive.
D'accord,
ça,
1 sur 3.
Et puis il y a la vitesse inadaptée, c'est-à-dire que vous respectez la limitation, mais que la vitesse n'est pas adaptée aux conditions de circulation.
Cécilia est là et elle voulait peut-être vous parler et intervenir sur ces radars, et c'est bien que ce soit une femme, parce que je pense... Je le constate en tout cas que les femmes ont un rapport à la voiture très différent pour le coup des hommes. C'est toujours compliqué de généraliser, mais je m'en aperçois quand même depuis tant d'années autour de moi. Et même quand je suis sur la route, quand je me fais doubler, mais même quand je suis en ville, quand je me fais doubler avec une conduite très agressive, à chaque fois je me dis tiens, je vais vérifier, et c'est toujours un homme. Toujours un homme qui m'a doublé, qui a fait une queue de poisson, qui conduit en gros n'importe comment. C'est toujours un homme. Cécilia.
Bonjour Pascal Pro, bonjour Monsieur Chastré.
Et merci.
Bonjour.
Alors, je voulais d'abord intervenir en vous parlant de la pédagogie. Vous nous parliez des voitures, disant que ce n'était pas pédagogique, ces voitures radars. Ben moi, j'ai envie de vous dire, la première pédagogie, elle se fait à l'auto-école déjà. Pas par la peur du gendarme ou quoi. À l'auto-école, on nous apprend à respecter les limitations de vitesse plus. Je le sais pour deux raisons. La première, j'ai mon permis de conduire depuis 13 ans. La seconde, j'ai été secrétaire en auto-école. Pas monitrice, hein, secrétaire. Mais j'ai beaucoup échangé avec mes collègues et je peux vous dire que ça fait partie des points d'honneur. Premièrement. Deuxièmement, vous n'étiez pas sûr du nombre de personnes qui n'avaient jamais perdu de points sur leur permis? Eh ben, vous pouvez en compter une. Moi, ça fait 13 ans que j'ai le permis de conduire, je n'ai jamais perdu de points et je fais en moyenne 1500 km par mois. C'est sûr, c'est pas comme les routiers, c'est pas comme les taxis, c'est pas comme les commerciaux, j'avale pas 20-25 000 km par mois, voire plus, c'est 1500. Mais en attendant, j'ai jamais perdu mes points. Le seul PV que j'ai eu, moi, c'était pour défaut de stationnement parce que j'avais mal vu où j'étais garée. Donc c'est comme tout. On vérifie. Quand on est derrière un volant, on risque sa vie, on risque la vie des autres. Donc on fait attention. Troisièmement, bah, les voitures radars, là, j'ai envie de vous dire que si eux, ils sont à une limitation de vitesse logique, on ne sera pas happé par leur conduite qui serait au-delà de la limite. On reste derrière. Ça nous évite d'avoir peut-être sans arrêt les yeux sur le compteur. Et quand les gens râlent en disant « je me suis fait attraper à 2-3 km/h au-dessus », eh ben non, c'est la retenue qui est 2-3 km/h au-dessus. Bien souvent, on est à 5-7 km/h au-dessus.
J'en ai des choses à vous répondre, ma chère Cécilia. Alors déjà, félicitations, hein, franchement, parce que bah, c'est très bien, vous avez une conduite ultra responsable et on le sent dans votre message, vous avez vraiment envie de prendre ça très au sérieux. Donc moi, je vous dis bravo. Par contre, attention, la vitesse que vous parlez en vitesse retenue, attention, vous tenez compte derrière, comme je le disais tout à l'heure, du fait que la machine est bien calibrée, ce qui parfois n'est pas le cas. Donc on peut être flashé, effectivement, pour 1 ou 2 km/h au-dessus, véritablement. Ensuite, vous me parlez de pédagogie en auto-école. Oui, très bien, mais vous savez très bien qu'il y en a pour qui il faut davantage de pédagogie et puis des petits points de rappel. Donc, ça ferait pas de mal d'avoir des systèmes et un petit peu de bleu sur la route, de force de l'ordre et non des sociétés privées qui viennent sanctionner les comportements dangereux.
On a compris, Pierre, ça serait votre argumentation.
Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faudrait plus de forces de police, gendarmerie sur les routes. Hein. Je suis la première, moi, à m'en rendre compte. Lorsque le peu de fois où je prends l'autoroute, parce que j'ai changé ma façon de conduire depuis quelques mois. Moins je prends l'autoroute, mieux je me porte. J'arrive sereinement chez mes clients, parce que j'en ai marre de me faire dépasser par des gens, quand moi je suis à 90, des routiers surtout, qui eux sont censés être à 80 sur certaines portions de route, parce qu'on est en descente, etc. Ils me dépassent, moi.
C'est
Et là,
ça
je me dis, non
dire.
Mais on va où
moi, Cécilia, ils sont là, c'est très important. Là, c'est très important parce que vous disiez tout à l'heure, si ces voitures privées roulent à une juste limitation de vitesse, de toute façon, on se mettra derrière, on n'aura pas de tentation de doubler. Eh bien, c'est là qu'on a un problème. C'est que pour que ces voitures puissent vous sanctionner à la limitation de vitesse, elles doivent se mettre 10 à 15 km heure en dessous de la limitation. Donc, finalement, elles provoquent une incitation au dépassement. Et là, ça peut être gênant.
Bon.
Mais Pascal, c'est vrai, si vous êtes sur le réseau secondaire, Pascal, avec une voiture qui roule à 75, vous allez la dépasser.
C'est les voitures radar qui vont provoquer en fait des excès de vitesse. Ça, je n'avais même pas imaginé. Oh, il est très fort, monsieur Jasseret. Bonjour, merci. Merci, madame Cécilia. On va être avec Pierre dans une seconde. Restez encore quelques secondes, monsieur Chasseret, parce que vous êtes excellent. Et Pierre va être. Il habite Roubaix et il n'est pas du tout d'accord avec moi. Donc moi, j'aime bien les gens quand ils ne sont pas d'accord avec moi. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Hier, c'était la journée des Pierres et Pierre est encore là aujourd'hui. Bonjour Pierre, vous habitez Roubaix.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Que voulez-vous nous dire, Pierre, sur notre discussion?
Écoutez, Pascal, je vous aime beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, mais là, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je fais 60 à 80 000 km par an, beaucoup d'autoroutes, à 130 km heure sur l'autoroute, je m'ennuie. Sincèrement, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, je ne suis pas attentif. Et si je ne suis pas attentif, je suis dangereux. Ça ne veut pas dire que je roule à 160 ou à 170 ou 180.
Mais vous me fascinez. Mais pourquoi vous vous ennuyez? Mais moi, je m'en fiche que vous vous ennuyez. Ce n'est pas mon problème.
Non, mais moi, j'y passe énormément de temps.
Mais non, mais attendez, mais cet argument est invraisemblable, Pierre. Je ne suis pas là. La société n'est pas là pour gérer votre ennui. Non, pardonnez-moi. Si vous vous ennuyez, vous prenez le train ou vous prenez l'avion. Vous êtes extraordinaire, ça ne peut pas être un argument quand même.
Professionnellement parlant, c'est impossible.
Mais ça ne peut pas être un argument de s'adapter à votre ennui quand même. Parce que si quelqu'un s'ennuie à 160, alors il va rouler à 180 et puis on va tous avoir des limitations de vitesse en fonction des ennuis des uns et des autres.
La question n'est pas là. La question, c'est que si je roule à 80 sur une départementale ou une autre qui est limitée à 90, je rentre dans un village qui est limité à 70, le suivant il est limité à 80, le troisième il est limité à 50 avec des portions à 30 km heure, c'est très 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 compliqué d'être toujours attentif. Voilà.
Ben non.
Vous regardez les limitations de vitesse en Belgique sur autoroute, elles sont à 120 km heure. En Italie, vous avez des portions à 150. Je ne vous parle même pas de l'Allemagne. En France, c'est 130. Qui a raison?
Mais c'est pas le souci, Pierre. Moi, là où je vous brocarde un peu. Bon. Ce que je ne comprends pas dans ces discussions, c'est que la conduite, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce que ça peut faire si vous arrivez 5 ou 10 minutes en retard, si vous n'arrivez pas sur la route avec un certain état d'esprit, de prendre aussi du plaisir à conduire, de respecter les limitations de vitesse, parce que c'est plus sympa en fait de ne pas rouler stressé. Parce que moi ça me stresse par exemple, si vous roulez très vite, c'est stressant, parce qu'il faut être au contraire plus concentré, plus attentif. À 130 sur l'autoroute, c'est plutôt agréable parce que c'est confortable.
Ça vous stresse parce que vous ne prenez votre voiture que pour aller bosser une fois de temps en temps, enfin chaque jour, pardon.
Mais pas du tout, je conduis beaucoup, moi, en plus.
Et vous la prenez le week-end.
Oui.
Mais imaginez, avant pour moi, conduire, je conduis depuis l'âge de 18 ans, évidemment. Je fais beaucoup de kilomètres depuis l'âge de 20 ans. Avant, c'était un réel plaisir de conduire. Aujourd'hui, ça devient presque une torture. Et alors, je voudrais dire, vous demandiez s'il y avait une augmentation du nombre de contrôles de vitesse. Je peux vous dire que là, les contrôles aléatoires, et avec les jumelles, les gendarmes, ils ont poussé comme des champignons après la pluie. Depuis 15 jours, il y en a partout.
Alors là, mais qu'est-ce que ça peut vous faire si vous respectez la limitation? C'est ça que je ne saisis toujours pas. C'est quand je parle d'état d'esprit. Alors vous, la réponse que vous avez à ça, c'est de dire « je m'ennuie à 130 à l'heure ». Mais il vous faut combien pour que vous vous ennuyez pas?
Par contre, moi je roule à 140, 150 compteurs. Par contre, quand je suis en ville, je respecte scrupuleusement les 50 km/h. Voilà, parce que il y a énormément de monde. On a des autoroutes merveilleuses en France. Elles sont propres, elles sont belles, elles sont bien faites. On a des grandes courbes. Il y a pratiquement aucun danger sur une autoroute en France. On a un truc merveilleux.
Donc faut rouler plus vite.
Superbe.
Donc vous êtes pour rouler plus vite.
Non, pas forcément. Mais
pas forcément.
Mais quelquefois, il m'arrive de rouler à 120 ou à 130 sur l'autoroute. C'est pas un souci. Mais si par hasard je roule une fois à 150, et ben ça me casse un petit peu les pieds que de risquer de perdre 2 points.
Voilà. Bah merci Pierre en tout cas de votre franchise et effectivement on est dans le débat bien sûr. Christine est là, vous pouvez rester Pierre. Christine est là qui est auxiliaire de vie et qui a déjà eu plusieurs procès pour des petits excès. Christine ?
Oui, bonjour Monsieur Pro.
Mais pourquoi merci bonjour, mais pourquoi des procès ? Je comprends pas.
Ah bah parce qu'il y a des radars embarqués.
Ah oui, des radars, d'accord.
Ah bah des radars embarqués.
C'est ce que vous appelez procès.
Oui, parce que forcément, vous payez 90 euros, vous avez 2 points en moins, forcément.
Vous avez combien de points aujourd'hui ?
Ben, j'ai récupéré mes 12 points, ma totalité.
Ah oui ?
Ça va, mais je les perds régulièrement, parce que le souci des radars embarqués, c'est que sur une voie, alors vous n'allez pas être d'accord, mais sur une voie, une rocade, où il n'y a personne, moi, c'est 90. Je regarde mon compteur, mais il y a des fois, voilà, j'ai un coup de téléphone à la voiture, je dois gérer une petite situation qui est un peu compliquée, mon esprit est ailleurs, je dépasse de 10 ou 12 km/h, paf, j'ai un procès. Alors, je fais très attention en ville. J'essaye d'être toujours vigilante, mais il y a des fois, voilà, le compteur, il est là, et il y a des fois, bah, on n'y fait pas attention, et le radar embarqué, bah, il nous le fait rappeler. Alors moi, je pense que c'est un petit peu de temps en temps exagéré quand même. Alors par contre, il faudrait plus de personnes, de la présence physique dans les villes où il y en a qui font du rodéo, où ils s'arrêtent en plein milieu de la route et ils discutent. Voilà. Et ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Mais par contre, les radars embarqués, c'est bien parce que ça fait rentrer des petits sous dans les poches de l'État.
Vous êtes donc
vous travaillez une journée de 7h jusqu'à 19h30 le soir, forcément le soir, il y a des fois, vous ne faites pas attention et vous dépassez un peu la ligne.
Ça peut arriver, mais je vous dis, vous avez quand même 12 points, vous voyez, bon, c'est pas dramatique.
Ah, oui, mais j'ai fait régulièrement. Oui, mais c'est pas dramatique, mais après, les procès, il faut les payer.
Oui, c'est ça qui est dramatique. Aussi.
Votre journée.
Mais c'est pas 90 euros, c'est pas si cher que ça, quand même. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on est au-dessus. Quand on est au-dessus.
Il y a des barèmes.
Oui, 90, ça me paraît cher lorsqu'on est à une petite infraction. Comment, monsieur Chasseret ?
C'est même au-dessus de ça. En fait, l'amende, elle est différenciée selon la zone. Si c'est une zone où la limitation de vitesse va jusqu'à 50 km/h, c'est 135 euros ramenés à 90 si vous payez rapidement.
C'est ça.
Et si vous êtes en dehors de ces zones à 50, par exemple sur autoroute ou ailleurs, c'est 68 euros ramenés donc à 45 euros si vous payez rapidement.
Voilà. Donc, mais vous savez, c'est un paradoxe parce que moi j'en ai perdu beaucoup de points et je les perds un par un. Donc c'est vrai que c'est pas facile parfois. Vous êtes un peu au-dessus, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faudrait vraiment sanctionner fortement, me semble-t-il, c'est les grands excès de vitesse et les gens qui sont sur la route, conduisent d'une manière excessive. En revanche, peut-être pourrait-on trouver, parce que essayons de faire un pas les uns vers les autres, pour les petits excès, peut-être que, et notamment en matière de points et en matière financière, on pourrait être peut-être plus tolérant. Ça vous va, monsieur Chasseret, ce que je dis ?
Ben c'est exactement ce qu'on a proposé en 2 propositions de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les 2 propositions ont été refusées. Celle qui prévoyait le non-retrait de points pour les petits excès entre 1 et 10 et celle qui prévoyait un abaissement de l'amende. Pareil, les 2 ont été refusées.
Bon, ben ça,
comme
c'est
quoi,
dommage.
En France, on cherche bien l'argent des radars.
Et ça sera le mot de conclusion de votre part. Mais merci d'avoir été avec nous. Vous étiez avec Christophe Paco. On vous a rappelé après. Et c'est toujours intéressant de vous avoir parce que vous êtes, je l'ai dit plusieurs fois, un excellent débatteur. Il nous reste quelques minutes. Ça sera le débrief. Vous savez, ce fameux débrief que la France nous envie. Mais on n'a même pas célébré la reine. On n'a même pas souhaité un bon anniversaire à la reine Elisabeth II, Greg Caranoni.
On pourra le faire après la pause.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous avez vu la cérémonie funèbre samedi? C'était une des plus belles cérémonies qui montrait effectivement la vieille Angleterre, la vieille Europe, mais également l'Occident d'une certaine manière. Comme on enterre une personne, ça renseigne beaucoup sur le niveau de sophistication de cette société. Et c'était un moment absolument magnifique, émouvant, bien sûr, que cette cérémonie de Windsor. Nous sommes avec Vincent, toujours sur les radars. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Oui.
Vous allez être quasiment le dernier, alors essayons de conclure la discussion que nous avons depuis une demi-heure.
Bah écoutez, elle était passionnante du reste. Non, moi ce qui m'a fait réagir, c'est que lorsque vous avez dit, Pascal, je comprends pas les gens qui... En fait, en gros, je comprends pas les gens qui perdent des points comme ça. Moi, j'ai un métier où je fais 60 000 km par an. Alors, c'est pas le tout de mettre son régulateur en marche, ça on le fait tous, mais c'est de savoir à quel moment il faut le mettre. Quand vous faites 100 km et que vous avez 40 changements de vitesse, quand il y a 40 changements, vous avez des panneaux qui vous font passer de 50 à 70 tous les 14 km, ça devient un petit peu plus compliqué que de pouvoir mettre son régulateur de vitesse au bon moment.
Ah, vous mettez à 50 tout le temps comme ça.
Ouais, vous avez raison. Ouais.
Alors, non, mais on a eu un routier tout à l'heure.
C'est très rigolo parce que mais quand vous avez 5 clients à voir par jour, même si vous n'allez pas vite, c'est un peu compliqué, donc ça serait bien aussi qu'il y ait une harmonisation, je pense.
Mais 90% les gens, comment vous expliquez que 90% des gens ont leurs 12 points?
Alors moi, je vais vous dire, comment vous expliquez que 95% des gens qui font des stages de récupération de points, alors peut-être que le chiffre n'est pas tout à fait exact, parce que ça n'est que mon expérience personnelle, j'ai fait quelques stages de récupération, ce sont des chauffeurs de poids lourds. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne conduisent pas plus vite que les autres. Simplement, ils conduisent beaucoup plus que les autres.
Oui, mais il n'y a pas 95% des gens. Moi, j'en ai fait. Il n'y a pas 95% des gens dans les...
Quand vous faites des stages de récupération de points...
Qui sont des chauffeurs de poids lourds. Hein,
ça, vous en avez au moins...
Moi, ce qui m'a frappé, c'est... Je crois que j'en ai fait deux, moi. À chaque fois, c'est que des hommes.
Ah, ça, c'est pas faux.
Ben oui, mais donc il y a bien un truc qui ne va pas, quand même.
C'est vrai, le
constat... Il y a une femme pour 25 bons hommes.
Ceci étant dit, Pascal, les femmes chauffeurs de poids lourds, il n'y en a pas des masses non plus.
Mais convenez que les hommes ont un rapport à leur voiture qui est particulier, quand même.
Ah ouais, mais ça, je m'inscris. Moi, j'aime trop les généralités, mais ceci étant dit, dans les stages, ce sont effectivement beaucoup des hommes. C'est tout à fait vrai. Mais encore une fois, ce sont beaucoup des gens qui font beaucoup de routes. Il y a effectivement des jeunes, on retrouve beaucoup de jeunes qui conduisent comme des tarés. Ah oui. Ça, c'est très bien qu'ils soient arrêtés. Ça, on en a. Enfin, j'en ai rencontré quelques-uns. Et vous avez beaucoup de commerciaux, de VRP et de chauffeurs de poids lourds qui sont régulièrement en stage de récupération de points. Ce sont des gens qui font tous à peu près... Enfin, on discute, hein, vous savez, dans ce genre de stage, on échange.
Ouais, c'est très sympa d'ailleurs. C'est,
ouais,
y a un côté, c'est l'armée. Parce que là, on est tous mélangés. Je trouve ça formidable. C'est un des derniers endroits... où on rencontre des gens qu'on ne rencontrerait jamais dans la vraie vie. Merci Vincent, en tout cas, parce que c'est l'heure du débrief. Bah, vous êtes vraiment gentil, c'est l'heure du débrief.
Débriefez bien.
Ah bon, ça m'étonne que vous n'ayez pas dit cette fois, dites-moi comment vous conduisez, je vous dirai qui vous êtes. En général, dès qu'on parle de conduite, vous le dites, Pascal.
Et évidemment.
Ouais.
Évidemment, c'est-à-dire que si tu es DRH, tu fais conduire quelqu'un et la personne ne peut pas tricher au volant. Je suis fasciné par ça.
Je savais que vous aviez un truc à dire là-dessus encore.
Bah oui, vous m'avez branché dessus. Laurent.
Débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Vous avez réagi ce midi à l'interview du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, invité de RTL ce matin. Après le verdict dans le procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon, 5 condamnés, 8 acquittés, une question est revenue. La justice est-elle trop laxiste?
Il y a 6 semaines de procès, monsieur, à huis clos. La justice a été rendue par le peuple français, c'est-à-dire par les auditeurs qui nous écoutent, qui sont de nationalité française, qui ont plus de 23 ans, qui n'ont jamais été condamnés, c'est ça le jury populaire.
Et là, on peut être sûr d'une chose.
Éric Dupond-Moretti ne laisse pas insensible.
Ouais, Matteo est étudiant en droit, comment a-t-il réagi en écoutant le ministre?
Chaque Français peut devenir biographe d'Éric Dupond-Moretti parce qu'il a la langue bien pendue, et il a notamment la langue bien pendue sur les assises. Mais quelle arrogance! mais quelle audace il faut pour dire ça lorsque le jugement qui a été rendu est juste une insulte à la police. Et au-delà d'être une insulte à la police, c'est une insulte à la sécurité des Français.
Raphaël, professeur de droit, a quelques critiques à faire sur le fonctionnement de la justice.
C'est la justice qui ne prend pas les bonnes décisions. Parce que le problème dans notre pays, et je le dis en tant que prof de droit peut-être et citoyen, ce sont les décisions de justice. Mais la justice, elle subit des réformes tous les ans, quasiment depuis 20 ans.
Et une question vous a fait réagir dans l'émission. La chasse aux automobilistes est-elle ouverte ? Les radars embarqués dans des voitures privées vont se déployer un peu partout en France. Sommes-nous des vaches à lait, Pascal ? Où est la pédagogie ? Un édito, s'il vous plaît.
Ça me fatigue, moi, les automobilistes qui roulent vite. C'est, je trouve que c'est fatigant.
Mais on n'a pas le droit de se plaindre.
C'est quand même simple de respecter les limitations de vitesse. Bon sang de bois.
Bon, très bien. Appelons alors un invité.
Je ne sais pas si monsieur chasserait. Et là, à chaque fois que je l'ai, on s'engueule, pardonnez-moi ce mot un peu trivial. Mais
je vous écharpez.
Ah, Pierre Chasseret de la Association 40 millions d'automobilistes et de la team. Oui, une bonne battle dans l'émission en perspective. Allez messieurs, échangeons dans la bonne humeur.
Au fond, ce que vous aimez, vous c'est rouler vite. Voilà, ça la vérité.
Ça recommence.
Mais ça recommence, pourquoi ? C'est ça que vous aimez, mais pourquoi pas d'ailleurs ? Et puis ça vous ennuie d'être...
C'est pas ça le problème.
Alors continuons, je ne vous sens pas assez chaud.
Mais la vertu pédagogique, arrêtez avec ça.
Bien,
vertu pédagogique de quelqu'un qui roule à 180 à l'heure, vous pensez qu'il y aura une vertu pédagogique ? La seule vertu pédagogique, c'est de lui enlever son permis pendant 3 ans. Voilà.
Et bien justement, double erreur, Pascal, mais c'est pas grave. Tant mieux, c'est ça que j'aime bien avec vous. C'est quand vous parlez, ça me laisse l'opportunité de tout corriger.
Bon, calmons-nous un petit peu, messieurs.
On n'est pas au bistrot, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, et chers amis, je voulais vous dire aussi que je rêvais d'un monde meilleur. Où tous les automobilistes s'aimeraient passionnément, se feraient des petits bisous à distance.
Ne soyons pas dans le monde des bisounours.
Ah, dommage. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte quand même avec le générique qui peut tous nous détendre sur la route. Quelle ambiance !
Nous savons nous tenir, donc nous ne lui ferons pas de bisous, mais nous la saluerons avec avec tous les égards dus à son rang. Flavie Flamand arrive.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RT.